avec tout ça. Il est 6h.
Christophe Ondelat sur Europe 1.
Je salue évidemment tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour la deuxième partie dans De la Traconte. Bonsoir Isabelle Millet.
Bonsoir Christophe.
Votre journal dans un instant. Deux mots avant ça sur la suite. Robert Ménard qui écrit Marine Le Pen et qui veut réécrire le programme du Front National est mon invité dans 20 minutes. L'homme de conviction du jour est un journaliste africain. Il s'appelle Louis Magloire Kemayou et il va plaider, si j'ai bien compris, pour la disparition du franc CFA en Afrique. Vers 7h20, ce sera le journal du monde de Sophie Larmoyer qui va nous raconter qu'en Iran, on utilisait des pigeons voyageurs pour transporter la drogue. Et puis dans la foulée, les fourberies de Benjamin Muller qui a pour mission d'écouter la concurrence et qui vient au rapport tous les soirs, ici, juste avant 7h. Mais d'abord le journal, avec à la une la carte de France des bébés, Isabelle.
Et un nombre de naissances en légère baisse. On fait davantage de bébés des villes, mais moins de bébés des champs. Mais quelle mouche a piqué Jean-Claude Mailly, le syndicat Force Ouvrière qui était très incisif contre la loi travail, reste cette fois en retrait sur la réforme du Code du travail. Il ne participera pas en tout cas à la journée d'action du 12 septembre. Plus de contrôle pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Tolérance zéro désormais, aussi bien dans le public que dans le privé. À Houston, au Texas, le site d'une usine chimique française évacuée, les autorités redoutent une explosion. Notez que la Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,49%. Le CAC 40 est à 5056 points.
Et on commence, Isabelle, avec ces statistiques qui concernent les naissances en France et qui sont bien intéressantes.
Oui, ce sont des chiffres dévoilés aujourd'hui par l'INSEE avec deux enseignements notables. On va voir ça avec vous. Bonsoir Chanel Petit.
Bonsoir.
D'abord, Chanel, les Français font de moins en moins de bébés.
Eh oui, on a longtemps été les champions d'Europe de la natalité, mais cette époque, eh bien, c'est peut-être bientôt fini. 784 000 naissances en France seulement l'année dernière. C'est 15 000 de moins qu'en 2015, 35 000 de moins qu'en 2014. On fait en ce moment à peu près autant de bébés qu'on faisait en 1999, c'est-à-dire 1,93 par femme. Alors pourquoi cette baisse? C'est simple, il y a aujourd'hui moins de femmes en âge de faire des bébés qu'il n'y en avait par le passé. La génération du baby-boom est à la retraite. C'est mécanique, les naissances reculent.
C'est mécanique en effet. Alors il y a un autre enseignement, Chanel, de cette enquête de l'INSEE. Les naissances sont de plus en plus concentrées au même endroit.
Oui, alors pour vous situer, en France, il y a à peu près 36 000 communes. Et écoutez ça, l'année dernière, presque toutes les naissances ont eu lieu dans 500 communes seulement, 500 sur 36 000. Paris arrive sans surprise en tête, suivi de Toulouse, de Marseille et de Lyon. Ce phénomène, c'est la conséquence de la fermeture de près de deux tiers des maternités ces 40 dernières années. Il y en a de moins en moins dans les petites villes. Les parents doivent donc conduire vers de plus grandes communes. En moyenne, un trajet qui dure une vingtaine de minutes. Mais on le sait, dans les campagnes, ce trajet, il peut vite atteindre une heure.
Merci beaucoup pour ces précisions, Chanel.
Je
ne
veux pas
Petit.
Vous coincer, mais vous savez quelle est la plus grande maternité de France?
Absolument pas.
C'est la maternité de Mamoudzou. Et c'est où Mamoudzou? C'est sur l'île de Mayotte, car les Comoriens viennent accoucher à Mayotte pour que les enfants soient de nationalité française.
C'est noté.
Voilà, le gouvernement à cette heure-ci met la dernière main aux ordonnances qui seront présentées demain. Ça sera la grande affaire de demain jeudi et qui vont permettre de réformer donc le Code du travail.
Ordonnances qui, avant même leur publication, vous le savez, mécontente la CGT en particulier, qui appelle à manifester le 12 septembre. Ce qui est surprenant, en revanche, c'est que Force Ouvrière ne participera pas à ce mouvement de contestation. Et ça peut paraître étonnant, sachant qu'ils avaient été très en pointe dans la lutte contre la loi travail. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir Isabelle.
Chef du service économie d'Europe 1. Alors qu'est-ce qui s'est passé Emmanuel? Pourquoi ce changement de cap de Jean-Claude Mailly?
C'est vrai que là on a un Jean-Claude Mailly qui est finalement doux comme un agneau. C'est d'autant plus étonnant que la réforme qui va être dévoilée demain va plus loin sur ce qui était pourtant considéré il y a un an comme des lignes rouges par EFO, comme notamment le plafonnement des indemnités prud'hommes. Alors la question était pourquoi ce changement de ton? Je vais quand même y répondre. Officiellement, c'est parce que il y a un petit peu de bienveillance par rapport à la méthode qui a été adoptée par le gouvernement. La loi travail, elle avait été, vous en souvenez sûrement, a décidé comme ça, proposée aux syndicats.
Ouais.
Là, il y a eu beaucoup de concertation. Bah oui. Jean-Claude Mailly le dit à qui veut l'entendre, la ministre du Travail est formidable dans son rôle de négociatrice. Donc ça, c'est le côté officiel. Mais officieusement, il y a quand même d'autres éléments qui entrent en jeu. Jean-Claude Mailly, on va le dire clairement, a eu l'impression de s'être fait avoir l'année dernière par la CGT, puisqu'il était toujours derrière, il était toujours après, et il a l'impression de s'être laissé embarquer trop loin à un moment. Il aurait voulu sortir, mais c'était impossible une fois qu'ils avaient dit non. Première raison officieuse. La deuxième raison officieuse, c'est que Jean-Claude Mailly va bientôt partir à la retraite. Il va bientôt quitter son poste de patron de FO. Et à ce titre-là, on a l'impression qu'il veut laisser une sorte d'héritage. Et c'est donc la raison pour laquelle il serait également plus bienveillant à l'écart du gouvernement.
Il n'a pas besoin d'être réélu.
Il n'a pas besoin d'être réélu.
Et de caresser les adhérents dans le sens du poil.
Mais malgré tout, ça passe pas très très bien en interne. Et du coup, il y a même de la contestation. On est un petit peu comme ce qui s'était passé avec François Chérec à la CFDT au moment de la réforme des retraites, où une partie importante des troupes avait quitté le navire. Là, on n'est pas du tout jusque-là. Mais effectivement, il y a une fronde du côté de certains membres de FO.
Je peux vous dire une chose. J'ai cherché à voir Jean-Claude Mailly demain soir pour commenter des ordonnances. Pour l'instant, il ne parle pas.
Bon,
figurez-vous.
Voilà, il vient d'être rappelé à nouveau.
Jean-Claude, si vous nous écoutez.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Et puis il y avait un invité ce matin à la table du Conseil des ministres, le chef de la diplomatie allemande, Sigmar Gabriel, qui s'est dit d'accord avec Emmanuel Macron pour réformer la directive européenne sur le travail détaché et assez impressionné par le projet de réforme du Code du travail. Et puis il est le favori pour la présidence des Républicains. Laurent Wauquiez tient ce soir, en ce moment, un meeting à Château-Renard, c'est dans les Bouches-du-Rhône.
On continue de chercher Maïlis dans l'Isère.
60 gendarmes mobilisés en renfort pour rechercher donc cette petite fille disparue dans la nuit de samedi à dimanche. Il continue d'explorer chaque parcelle, chaque recoin à la recherche d'un indice dans cette petite ville de Pont de Beauvoisin. Des battues sont également organisées alentour dans la forêt.
On garde un œil évidemment aux États-Unis où la tempête tropicale Harvey qui a semé le chaos au Texas frappe désormais deux autres États, la Louisiane et l'État de la Louisiane et notamment la ville de la Nouvelle-Orléans,
avec des pluies torrentielles qui ont déjà commencé à s'abattre sur la région qui avait été, on s'en souvient déjà, profondément meurtrie en 2005 par le passage de l'ouragan Katrina. Et puis à Houston, les autorités ont dû prendre une mesure radicale pour éviter les pillages, la mise en place d'un couvre-feu nocturne parce que des milliers d'habitations, vous le savez, ont été abandonnés par leurs habitants. Houston, où l'on apprend aujourd'hui qu'une usine chimique française a été évacuée. Les autorités redoutent en effet, Aurélien Fleureau, une explosion sur ce site qui contient des produits potentiellement très dangereux.
Oui, alors je vous plante le décor. Il s'agit d'une usine du groupe Arkema qui est située à une trentaine de kilomètres à l'est de Houston, dans une zone qui n'est pas très peuplée, mais il y a tout de même des maisons aux alentours. Les personnes d'ailleurs qui vivent dans un rayon de 2,5 km autour ont été évacuées. Des mesures de précaution, expliquent les autorités locales, mais il y a une inquiétude réelle. On parle là de produits chimiques instables, des peroxydes organiques. Ils sont utilisés pour fabriquer du plastique. Ils doivent impérativement être conservés entre moins 15 et 15 degrés. Sinon, il y a un risque de désintégration. Et cette désintégration peut avoir deux conséquences. D'abord, causer un énorme incendie. Donc, on imagine ce que pourraient donner des fumées noires issues de ces produits chimiques. Deuxième conséquence possible, l'explosion des containers dans lesquels ces produits sont stockés. Et là, eh bien, il y a un doute. La direction de l'usine nous a dit ne pas pouvoir jauger exactement les conséquences de ces potentielles explosions parce que tout simplement, ce n'est jamais arrivé.
Et alors le problème, Aurélien, c'est que la situation est loin de s'améliorer au niveau de la météo.
Oui, le niveau d'eau ne cesse de monter dans l'usine. Les containers qui avaient été montés à 1,50 m du sol sont désormais noyés. Ils ne sont plus alimentés en électricité. Et c'est pour ça que les 11 salariés qui étaient restés sur place ont été évacués il y a quelques heures. Ce qu'ils disent, c'est que maintenant, ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, me disait un membre de la direction. Leur seul espoir, c'est évidemment que maintenant, les pluies cessent enfin.
Merci Aurélien Fleureau. Et puis on a appris que les États-Unis avaient demandé l'aide de l'Europe pour surveiller l'évolution de cette tempête tropicale. Et vous venez, Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Vous venez, Isabelle, de visiter à l'instant le centre d'urgence européen qui suit de très près l'évolution de la tempête tropicale Harvey.
Oui, et je vous avoue que c'est assez surprenant de voir sur les écrans géants en plein quartier européen une carte détaillée de la ville de Houston. Alors on y voit très précisément quartier par quartier les zones qui sont sous l'eau. Alors en fait en Europe on a un système très performant de cartographie par satellite qui s'appelle Copernicus. Les pays européens sont tous mis ensemble pour l'établir. Il sert beaucoup par exemple pour surveiller les feux de forêt ou après les tremblements de terre. Et donc vendredi dernier, quand les responsables du centre d'urgence ont vu la menace d'Harvey se préciser, eh bien, ils ont pris leur téléphone, ils ont proposé leur service à la FEMA, c'est l'organisme fédéral chargé des urgences aux États-Unis, et le lendemain, eh bien, la FEMA les a appelés à la rescousse. Écoutez Antoine Lemasson, c'est lui le chef du centre.
Même un État comme les États-Unis, ils ont besoin de compléter les informations et donc ils nous ont écrit en nous disant bah, « écoutez, on aimerait bien dans cette zone avoir des cartes un petit peu précises ». En fait, ça leur permet de préparer leur intervention et de s'assurer qu'ils interviennent dans des zones où il y a effectivement des besoins parce que des populations ont été coincées par les inondations. Donc c'est très pratique en fait.
Alors les scientifiques européens se sont mobilisés et ils ont transmis leurs premières cartes en moins de 24 heures. Depuis, ils en ont fait 9. Les Américains leur ont demandé des vues de Houston, d'Austin ou de la ville de San Antonio. Et tout ça, eh bien, l'Europe le fait gratuitement. En fait, ça fait partie des services qu'on se rend entre pays en cas de catastrophe naturelle majeure. Tout le monde se serre les coudes.
Merci à vous. Isabelle Horry en direct de Bruxelles. Dans un instant, la suite du journal et cette tolérance zéro que le gouvernement veut imposer concernant l'égalité salariale entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Si ça n'est pas le cas, va falloir raquer.
Christophe Ondelatte sur Europe 1. Christophe Ondelatte sur Europe 1.
6h12 minutes dans On la raconte, la suite du journal. Les employeurs qui ne respectent pas l'égalité salariale entre les hommes et les femmes vont devoir passer à la caisse.
Et ils sont encore nombreux, beaucoup trop nombreux. La loi en vigueur n'est malheureusement pas toujours respectée. Du coup, la secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes veut sévir. Bonsoir Ève Roger.
Bonsoir Isabelle.
Elle a décidé d'employer les grands moyens d'abord dans le secteur public.
Eh bien oui, il faut savoir que depuis 2012, les ministères qui ne font rien pour promouvoir des femmes au poste de direction dans la fonction publique risquent des pénalités. Et ces pénalités financières, ça peut aller jusqu'à 90 000 euros pour un poste non occupé par une femme. Donc, Marlène Schiappa a décidé de mettre en place un dispositif avec son collègue Gérald Darmanin des comptes publics pour récupérer plus vite cet argent, c'est-à-dire ponctionner directement ces pénalités dans le portefeuille du ministère pour le réinjecter directement dans le budget de l'État.
Alors ça, c'est pour le secteur public. Ça va se passer comment pour les entreprises privées?
Alors là, ce sont des entreprises de plus de 250 salariés qui sont concernées. Ça fait à peu près 36 000 entreprises en France qui sont obligées de faire chaque année ce qu'on appelle, attention, un rapport d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Et dans ce rapport, elles doivent montrer ce qu'elles font pour la promotion professionnelle des femmes, comment elles montent dans la hiérarchie et ce qu'elles font pour combler l'écart de salaire entre les unes et les autres. Et c'est obligatoire, et si elles ne le font pas, elles risquent une mise en demeure, puis une amende qui peut aller jusqu'à 1% de leur masse salariale. Fin 2016, une petite centaine d'entreprises ont déjà dû payer et 2000 ont eu un rappel à l'ordre. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant pour Marlène Schiappa, qui veut renforcer ses contrôles pour éviter que trop d'entreprises passent entre les mailles du filet.
Merci Ève Roger, qui est chef du service Société d'Europe 1.
Il y a un peu plus d'un an, les banques françaises lançaient le paiement sans contact. Au début, on s'est dit « ça va pas marcher ». Comme beaucoup de choses qui avaient été lancées précédemment, en vérité, un an plus tard, ça marche.
Eh bien oui, de plus en plus de transactions se font avec ce nouveau système. Et visiblement, Pauline Jacquot, visiblement, ça n'est qu'un début.
Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, on paye deux fois plus en sans contact que l'an dernier. Pour vous donner une idée, sur le mois de juillet, on a payé 108 millions de fois en sans contact. C'est quand même assez énorme. Alors, ça ne marche, on le rappelle, que pour les paiements de moins de 20 euros. Sur l'année 2016, ça représente quand même 6 milliards d'euros de dépenses. Quand même. Alors, évidemment, il y a encore des améliorations à apporter parce que seulement 2 cartes sur 3 sont équipées de ce petit système. Écoutez, ces utilisateurs parisiens, ils sont conquis, mais ils demandent quand même d'aller encore un peu plus loin.
Il faut que de plus en plus les commerçants s'y mettent. C'est carrément plus rapide. Donc nous, on aime bien ça.
Ouais, les petites dépenses, dont les bars ou genre de petits trucs pas trop chers. 20 euros, c'est même un peu bas quand même, je trouve. Parce qu'il y a souvent, on est un peu au-dessus.
C'est facile, ça va vite, ça prend moins de temps qu'un paiement avec un code. Ça évite d'avoir de la monnaie sur soi. Moi, je trouve ça très pratique.
Alors, comme je suis sûr que vous vous posez tous la question, pour vérifier que votre carte soit équipée du sans contact, c'est très simple. Il faut regarder si sur votre carte, vous avez ce petit symbole, vous savez, en forme d'onde. Alors, on parlait de coup d'accélérateur tout à l'heure, Isabelle, vous avez complètement raison, puisque au mois d'octobre, donc dans pas très longtemps, ce ne sera plus 20 euros qu'on pourra payer, mais jusqu'à 30 euros qu'on pourra.
Ah, mieux, parce que quand ça coûte 20 euros ou 50. On se trouve idiot, il faut composer son code.
Eh bien exactement, ce sera possible donc au mois d'octobre sans taper son code.
On est tous d'accord ici pour dire que c'est quand même très pratique, mais il y a des personnes qui sont réticentes, et si elles sont réticentes, c'est parce qu'elles ont peur de la fraude. Est-ce que c'est vrai qu'il y a de la fraude avec ce système, Pauline ?
Alors non, c'est un peu une légende, pour être très honnête. On comprend que des utilisateurs aient un peu peur, mais depuis l'arrivée de ces paiements sans contact, il n'y a pas plus de fraude. C'est seulement une opération bancaire sur 5000 qui est frauduleuse. Et puis de toute façon, même si vous êtes victime de fraude, c'est très simple, votre banque est tenue de vous rembourser.
Merci Pauline Jacquot.
Les confessions émouvantes d'Alain Delon après la mort de Mireille Darc. Il dit dans une interview, elle était la femme de ma vie.
Oui, le comédien se livre à Paris Match, interview accordée à Valérie Trierweiler. Je n'aurais pas beaucoup d'années à vivre sans elle, dit-il. Pas trop d'années à souffrir sans elle, je peux partir moi aussi. Les obsèques de l'actrice auront lieu vendredi en l'église Saint-Sulpice à Paris.
Le football maintenant, on est à un jour du match des Bleus pour la qualification aux Mondiaux.
C'est demain qu'ils affrontent les Pays-Bas. Depuis le début de la semaine, ils étaient à Clairefontaine. On les a suivis avec vous, Cyril de la Morinerie. En ce moment, c'est leur dernier entraînement au Stade de France où l'on vous retrouve en direct. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Isabelle.
Match capital, on le sait, pour les Français. Alors comment l'abordent-ils, vous qui les avez côtoyés ces derniers jours ?
Avec l'envie de se rattraper après la défaite en Suède en juin dernier qui a tout changé. Les Bleus sont désormais deuxièmes de leur groupe de qualification derrière les Suédois. La deuxième place, elle est synonyme de barrage. Et ça, Didier Deschamps ne veut surtout pas en entendre parler. Il reste 4 matchs, 12 points à prendre. Et même si en face, c'est une équipe hollandaise très prestigieuse, hein, c'est 3 finales de Coupe du Monde au palmarès. C'est Robben, c'est Van Persie, c'est Sneijder. Et même si les Bleus n'ont eu que 4 jours pour se préparer, eh bien le sélectionneur veut à tout prix la victoire pour retrouver la main dans ce groupe relevé.
On prépare ce match pour arriver à cet objectif. Il ne sera pas décisif. Après, tournant important, très important. Oui, il est très important. Pour ne pas attendre quoi que ce soit des autres, c'est atteindre notre objectif, nous, et gagner ce match-là demain.
Et en ce moment, c'est le premier véritable entraînement sous une petite pluie fine, puisque lundi et mardi donc étaient axés essentiellement sur la récupération. Mais le 13e homme, ça je peux vous le dire, sera en grande forme avec un tifo géant qui couvrira 3 tribunes demain soir lors de l'entrée des joueurs.
Merci beaucoup Cyril de la Morinerie en direct du Stade de France. Et puis le foot, c'est aussi, on l'a appris aujourd'hui, la nomination d'une femme, Corinne Diacre, comme sélectionneur de l'équipe de France féminine. Elle remplace Olivier Échouafny, qui est après l'élimination des Françaises qui n'ont pas été très bonnes cet été, éliminées en quart de finale de l'Euro. Depuis 3 ans, Corinne Diacre entraînait Clermont en Ligue 2. Elle est la première femme à avoir entraîné un club professionnel d'hommes. Et elle va donc retrouver des femmes, mais avec un poste ô combien prestigieux.
Et la fin de l'histoire, c'est quand une femme sera sélectionneur pour l'équipe de France masculine.
Masculine, voilà. Ça serait une bonne
l'année
idée.
L'année prochaine.
Un mot de l'US Open de tennis avec un programme chargé pour rattraper le temps perdu à cause de la pluie hier. Malheureusement, on vient d'apprendre que Kristina Mladenovic, la numéro 1 française, vient d'être éliminée d'emblée par la Roumaine Nicolescu. Et puis on va suivre aussi sur les cours ce soir Gasquet, Chardy et mon fils.
Merci beaucoup Isabelle Millet.